11h04 minutes, bienvenue dans Trudeau-Landry pour nous joindre. 25-226. Je pense que dans le contexte actuel, juste avant d'aller plus loin, allons-y avec le factuel, allons-y avec les chiffres concernant la course à la présidence américaine. Il n'y a toujours pas de gagnant à 11h04 en ce mercredi 4 novembre. Si on regarde le collège électoral, selon CNN, puis je sais que ça peut varier selon les agences de presse, mais selon CNN actuellement, Joe Biden a toujours 224 grands électeurs. Donald Trump, toujours 213 grands électeurs. Je rappelle que le chiffre à atteindre, c'est 270. Donc, qui a le chemin le plus facile? On verra. Et on continue d'avoir les yeux rivés sur ce qui se passe au Michigan, au Wisconsin, en Géorgie et en Pennsylvanie. Au Michigan, c'est toujours Joe Biden qui a l'avance, très légère avance. Wisconsin également, c'est Biden qui est en avance. Par contre, Trump a l'avance en Géorgie et en Pennsylvanie. Ou d'ailleurs, en Pennsylvanie, les autorités ont fait le point il y a à peu près une trentaine de minutes en disant qu'il reste encore 1 million de votes à compiler en Pennsylvanie. Beaucoup de votes par la poste là-dedans. Et là-bas, la loi en Pennsylvanie prévoit qu'ils peuvent compter jusqu'à vendredi des bulletins de vote qui ont le stamp, comme quoi il a été mêlé à temps avant l'heure limite pour envoyer ce vote-là. On va aller retrouver une autre de nos collègues, elle est chère à la chaire Raoul Dandurand, Valérie Beaudoin, qui est avec nous. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors Valérie, quel est le... disons, l'analyse de l'état de la situation actuelle que tu fais à 11h05, est-ce qu'il y en a un des deux qui a un chemin plus facile vers la présidence, à ton avis?
Oui, c'est Joe Biden qui a le chemin le plus facile vers la présidence, c'est assez clair, mais je peux vous dire qu'à l'heure où je me suis couchée pour ma sieste, je vais appeler ça comme ça, je me disais que c'est Donald Trump qui avait l'avantage là, de la stratégie pour pouvoir gagner la Maison-Blanche à nouveau. Mais là, à ce qu'on voit là, avec tout le vote par anticipation, le fameux vote par la poste qui est rentré entre autres au Michigan, au Wisconsin pendant la nuit, vraiment là, c'est beaucoup plus clair que Joe Biden pourrait l'emporter. Donc, il peut perdre encore la Pennsylvanie et remporter la Maison-Blanche. Et ça, je pense que c'est l'information la plus importante parce que où la contestation se joue, c'est en Pennsylvanie. Donc, imaginez le scénario rêvé et dans les circonstances, parce que c'est pas ça qu'on voulait du côté démocrate, d'avoir Joe Biden qui accède à la Maison-Blanche en n'ayant pas besoin de la Pennsylvanie, donc en ayant ça à mettre de côté là, au niveau des contestations. Mais les calculs, ça dit que Joe Biden pourrait avoir la présidence avec 270 votes au collège électoral.
Pile.
Donc, c'est sur la ligne. Imaginez, là, ça veut dire que la moitié du pays est pas du tout d'accord avec le choix du président.
Valérie, on parle de l'importance du vote postal. Évidemment, on en parle beaucoup depuis le petit matin, même au cours des derniers jours. Mais prenons un peu le temps d'expliquer pourquoi il y a une prépondérance si importante vers le Parti démocrate, vers Joe Biden dans ce vote-là. Parce que certains pourraient dire dans d'autres circonstances, ah, ben c'est parce que c'est des gens qui ont voté quelques jours avant. Et là, finalement, il y a eu un élément dans l'actualité qui est venu faire changer d'idée. Bon, bien des gens qui font en sorte qu'il y a une dichotomie entre les deux votes. Mais dans ce cas-ci, on parle de quoi? Du profil des électeurs qui votent par correspondance?
Oui, entre autres, quand on voit dans certains comtés où c'est à majorité démocrate, on peut se dire, bon, le vote par la poste, ça risque aussi d'être démocrate. On y va aussi un peu comme ça, géographiquement parlant. Mais également en se disant qu'on a sondé beaucoup. Et là, je fais attention au sondage aujourd'hui. Là, c'est la journée où on va s'y fier peut-être un peu moins. Mais quand même, on le sait que les démocrates voulaient favoriser le vote par la poste, justement, parce qu'on avait peur que nos votes soient pas comptés. On avait peur à la pandémie, parce que les démocrates sont souvent dans des centres urbains qui étaient beaucoup plus touchés par la pandémie de la COVID-19. Donc, on a l'impression qu'eux ont été peut-être plus conscientisés à se dire on va voter par la poste, mais c'est vrai que c'est pas le cas partout. En Floride, là, le vote par anticipation qui a été très populaire chez les républicains aussi, qui étaient vraiment motivés à le faire. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en Pennsylvanie, c'est pas joué. Mais honnêtement, les chances que ça se rapproche la course, au moins ça, je peux vous dire que ça risque d'être assez serré quand même en Pennsylvanie, peu importe le résultat.
Il reste quand même que si Biden gagne, Valérie, ce sera quand même, on pourra dire que c'est une victoire quand même serrée. Une victoire sur la fesse, comme on dit en langage populaire.
Oui, qu'est-ce que ça peut pas dit? Être plus sur la fesse non, que ça, si ça, je reprends ton expression.
Qu'est-ce que ça dit sur la qualité du candidat, sur les idées démocrates aussi, sur ce que les démocrates avaient à proposer aux Américains? Parce que, tu sais, dans un sens, quand tu regardes ça, un président qui peut être vu comme étant aussi toxique aurait dû normalement, moi je pense en tout cas qu'un candidat démocrate plus solide aurait réglé ça plus facilement. Qu'est-ce que ça dit tout ça sur Biden, à ton avis?
Je me permets de te tutoyer. Ben tu n'es pas le seul à penser ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont la même lecture en se disant aussi, est-ce que Joe Biden aurait dû sortir plus à la fin de la campagne? On se rappelle, il y a une semaine, il prenait des journées de congé. On était à une semaine de l'élection, là, entre autres un week-end où il était à la maison et que c'est Barack Obama qui faisait campagne. Donc, c'est certain qu'on sentait qu'il y avait un relâchement peut-être du côté démocrate en se disant, bon, ben de toute façon, on les regarde les sondages, sont prudents cette fois-ci et ça devrait bien aller pour nous la soirée du 3 novembre. Donc ça, je pense que c'est la première erreur. Et c'est certain que Joe Biden, on l'a toujours vu comme une espèce de candidat de transition qu'on a mis là pour battre Donald Trump en se disant, bon, c'est quelqu'un, un blanc qui va bien avec la classe ouvrière. Les gens l'écoutent beaucoup, qui est l'espèce de Uncle Joe qui rejoint la classe moyenne. Donc, il joue toujours un peu là-dessus, Joe Biden. Donc, on s'est dit, ça va être un bon choix, ça va pas faire peur aux conservateurs qui voudraient peut-être être dans le voter démocrate pour la première fois parce que Donald Trump est pas un candidat républicain normal, je mets des guillemets ici. Donc, je pense qu'il y avait ça aussi. C'est vrai que, écoutez, Joe Biden, là, il est là parce qu'on avait besoin de mettre quelqu'un et parce que la présidence Trump était en référendum, je trouve, avec cette élection-là. Donc, peu importe qui on mettait, c'était vraiment un référendum à se dire, est-ce qu'on veut Trump encore pour 4 ans ou est-ce qu'on n'est plus capable et on veut du changement?
Je reviens, Valérie, sur la stratégie de campagne parce qu'effectivement, la stratégie, puis on en a parlé ici dans l'émission à plusieurs reprises, moi, je ne pouvais pas croire que Joe Biden se posait les deux pieds sa bavette du poil en attendant d'être élu. Mais en même temps, parlons de la stratégie de Donald Trump, parce que je pense que Joe Biden, encore là, souffrait de la comparaison avec un président qui venait de se remettre en plus de la COVID et qui, lui, a vraiment été hyper actif. Il a été même à la traditionnelle, si on veut, en termes de façon de mener une fin de campagne. Donald Trump, il a eu une bonne fin de campagne, lui.
Ah oui, une bonne fin de campagne. Il y avait de l'énergie à revendre. Je peux vous dire que j'aurais même pas pu suivre son rythme de campagne. Vraiment, le plusieurs rallyes. Et je pense que c'est un pari qui était payant pour les Républicains, pour Donald Trump, de dire, écoutez, moi, je vais sortir, je vais le faire le plus de rallyes possible. Donc, pour avoir une meilleure couverture et pour démontrer aux gens, écoutez, vous voyez, là, on est revenu à la normale. On a des grandes foules, on fait des grands rassemblements. Ça va bien. Je suis en forme. J'ai survécu à la COVID-19. Et vous allez voir, là, que dans les 4 prochaines années, on va passer à autre chose. La pandémie est derrière nous. Là, je caricature un peu la situation, mais quand même, c'était un peu le message qu'il envoyait. Et je pense que ça a été payant parce que on pense toujours qu'il y a cette fameuse base, hein, l'espèce de 40% qui est toujours derrière Donald Trump, coûte que coûte, peu importe ce qui se passe. Mais on se rend compte que cette base-là est un peu plus grande et que les gens qu'on pensait qui étaient des indépendants, qui allaient être absolument démocrates cette fois-ci, ben il y en a qui ont décidé d'aller vers Donald Trump. Est-ce que c'est pour le portefeuille? Je pense que ça, c'est un élément qui est assez important dans le calcul de cette campagne-là. C'est quand on va revoir là, les raisons pourquoi on a choisi Donald Trump peut-être à nouveau. Parce que cette peur d'avoir les impôts qui vont augmenter, cette peur que la classe moyenne soit imposée encore plus, cette peur du socialisme aussi, à la limite, ça a peut-être fonctionné aussi comme message de fin de campagne.
Exactement ça, exactement. Le clivage entre milieu urbain et milieu ruraux, Valérie, c'est assez frappant. Mais tu sais, en même temps, les États-Unis, je pense, souvent dans leur histoire, ont été divisés. Tu sais, quand on recule à l'époque de la guerre du Vietnam, la lutte pour les droits civiques, tu sais, la division, c'est pas nouveau aux États-Unis, là, malheureusement, mais on sent qu'avec cette élection-là, que ça risque peut-être de s'empirer, là.
Ah oui, c'est certain, parce que là, on a 50-50. C'est vraiment la moitié des États-Unis qui sera pas content au lendemain des élections. Ils sont déjà polarisés, ils sont déjà aux extrêmes. Hein. Les pro-démocrates qui détestent Trump, ils détestent pour vrai, et les gens qui adorent Trump, c'est une adoration qui est totale. Donc, on est des gens complètement à l'opposé. Et pour ce qui est des villes, et la plus la campagne, je vous dirais, ou les zones plus rurales des États-Unis, on le voit, le meilleur exemple, c'est le Texas, qui devient de plus en plus bleu, de plus en plus démocrate, parce qu'il y a des villes au Texas qui sont très, très démocrate, très progressiste, mais tout le reste, et on va généraliser un peu, mais c'est quand même vrai, le reste du Texas qui est en campagne, qui est plus reculé, ça reste extrêmement républicain, et c'est ce qu'on va voir là, dans plusieurs étapes. J'ai l'impression que ce qu'on est habitué de voir, cet état-là est rouge, celui-là est bleu, ça va changer aussi, comme l'Arizona est le meilleur exemple, là, c'est acquis en quelque sorte pour Joe Biden. Il y a quelques réseaux qui ont confirmé qu'il gagnait l'Arizona. Il vote toujours du côté républicain, mis à part une exception dans les dernières années, c'était Bill Clinton. Donc, c'est un État qui était républicain. Et là, on le voit vraiment, il y a un virage avec les jeunes, surtout, vers les démocrates.
À quoi on doit s'attendre dans les prochains jours, Valérie? Parce que là, on parle de dépouillement tardif, de possibilité de contestation. En même temps, c'est pas la première fois qu'il y a des résultats qui se font attendre aux États-Unis. Et il y a toute une séquence qui doit nous mener à l'inauguration au mois de janvier. Je pense notamment au vote officiel des grands électeurs. Bref, à quoi s'attendre pour les prochains jours? Puis en quoi la situation actuelle pourrait perturber le cours normal des choses? choses?
Ben, écoutez, c'est sûr qu'avec le décompte qui pourrait s'étirer en Pennsylvanie jusqu'à vendredi, déjà dans le court terme, on risque d'avoir une semaine assez chaotique. Déjà, ça a commencé sur le fil Twitter en ce moment du président Trump, qui appelle déjà au vol de l'élection, à la fraude électorale. Il l'avait déjà dit hier là, dans son discours en milieu de nuit, lorsqu'il s'est déclaré vainqueur. Donc ça va continuer. Et vous allez voir, là, il va marteler qu'il veut aller en Cour suprême pour faire annuler des résultats parce que lui, il voulait que le vote arrête hier, hein, que ça soit terminé. Mais je me suis amusée à regarder dans d'autres États comment ça se passait. Et il y a des États qui sont républicains qui, eux aussi, acceptent les bulletins de vote après la date. Donc, il y en a que c'est même encore plus loin. Le Kansas, le Kentucky, pour des exemples, la Virginie aussi, on accepte des bulletins de vote jusqu'à plusieurs jours après la date de l'élection. Donc, on voit qu'on a choisi un État peut-être qui faisait un peu notre affaire. Et pour la suite des choses, s'il y a des contestations, on l'a vu en 2000, l'exemple peut-être le plus connu entre Al Gore et George W. Bush. Ça s'est rendu en Cour suprême, ça s'est décidé au mois de décembre, en rappelant aux gens que c'est le 20 janvier que le nouveau président entre en mandat. Donc, on a quand même un court moment là, pour que ça soit devant les tribunaux. Mais je pense que les tribunaux vont faire rapidement en sachant là, qu'il y a une urgence d'agir si ça se rend jusque-là.
Comment tu vois l'avenir du Trumpisme? Si jamais Biden gagne là, dans les prochaines heures ou les prochains jours ou les prochains mois, Valérie, on s'entend que moi, je serais très surpris de voir Donald Trump se retirer à sa résidence de la Floride et quitter complètement l'espace public. Quelle sera la suite pour lui, à ton avis? Moi, je pense qu'il va être très présent dans les médias. Puis je pense que son style politique risque de survivre à sa présidence, là.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Il va peut-être avoir un autre Donald Trump dans les années à venir. Est-ce que le Parti républicain, après, va vouloir revenir à un candidat plus conventionnel et on va revenir à un Trump là, plus tard? Ça se peut, mais je suis d'accord que Donald Trump va pas vouloir quitter l'espace médiatique. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin pour le faire parce que même s'il retourne en Floride pour une période de temps, par exemple, il est très actif sur Twitter. On le sait, c'est repris par les médias partout dans le monde et ça va continuer de l'être, à mon avis, même s'il quitte la Maison-Blanche en janvier. Il y a même des gens qui disent, est-ce qu'il va être commentateur à Fox News ou est-ce qu'il va créer son propre réseau de télévision? Ouais. Moi, je serais même pas surprise qu'il bâtisse ça sur un empire médiatique.
Trump TV.
Et voilà, hein, pourquoi pas? Surtout que ses enfants sont peut-être une dynastie de candidats à la Maison-Blanche. Hein. On le sait qu'il y en a deux, d'ailleurs, qui ont des intérêts. Mmh. Alors, ça serait peut-être une bonne façon de faire la promotion. Je ne veux pas donner d'idée à Donald Trump, mais c'est peut-être déjà dans les plans.
Merci beaucoup, Valérie. Fort intéressant.
On continue. Ça m'a fait plaisir.
Merci.
Valérie Beaudoin, bonne journée. Valérie Beaudoin, chercheur à la chaire Raoul Dandré. Ouais, moi j'ai deux options pour Trump après. Si jamais Biden gagne, puis il faut faire bien attention là. Moi aussi je suis d'accord. Je pense que de ce que je connais de la politique américaine, le chemin semble plus facile pour Biden que pour Trump là, pour la suite des choses, pour gagner la présidence. Mais j'ai deux options s'il perd, c'est soit Trump TV ou à Fox News. Moi, j'étais boss de Fox News présentement. Je songerais déjà au concept. Tu sais, une émission du genre Mr. President à Fox News.
Ah oui, parce qu'en plus, toute sa vie, il va rester Mr. President.
Ben oui, c'est ça.
C'est président Trump à vie. Garde l'appellation.
Tu sais, je mettrais ça quelque part entre Hannity puis Tucker Carlson la programmation.
J'ai une idée.
Oui.
Ils ont fait je sais pas combien de spin-off de The Apprentice.
Ouais.
Apprentice qui veut dire l'apprenti. Ouais. Tu fais un The Apprentice pour le prochain candidat du Parti républicain.
Wow, j'aime ça, oui.
T'aimes-tu ça?
C'est
là,
bon,
le
ça.
Parti républicain lui veut rien savoir de ça. Mais Trump, c'est pas grave. Moi, je vais vous donner un clé en main. Puis il dit, you're fired. Puis là, à un moment donné, t'as des candidats. Puis là, tu fais ça sur 2-3 ans.
Puis lui, il va choisir le gars. Ouais, il va choisir son candidat à la prochaine investiture républicaine en 2024.
Je pense qu'on a de quoi, là.
Oui!
Est-ce que quelqu'un a l'adresse de Trump? Je vais envoyer mon conseil.
Ouais. Mais là, on va protéger ça des copyrights, là. C'est très, très bon. Très, très bon comme idée. Ce serait très, très, très bon.
Faites comme si c'était pas signé depuis 2015.
Ouais.
Tu penses sur son émission à Fox, tu sais.
Tu penses que c'est déjà réglé?
C'est clair. Il s'est éloigné quand même de Fox. Ouais. Tu sais, Wallace qui avait animé le débat, pas mal un gars de Fox, le premier débat qui s'était coltaillé avec le président, mais Trump TV...
En streaming, là.
En streaming, avec ça, Alex Jones qui fait les nouvelles de 18h.
Oui. Wow. Et là, les pro-Trump.
Le volet international avec Alexis Cossett-Trudeau.
Ça va être lourd, hein?
Il fait vraiment les nouvelles parce que c'est lui qui les fabrique.
Oui, exactement. Allez, reprenons notre sérieux. Puis, sérieusement, oui, écoute, on a des opinions, mais je trouve que c'est important aujourd'hui aussi de bien inciter sur les faits parce que Trump, présentement, ment à ses électeurs. Puis la réalité, c'est qu'il n'y a rien de réglé encore. Et de sous-estimer Trump serait une grave erreur encore.
Il ment. Hey, j'essaie quelque chose. J'essaie quelque chose. 25-2-2-6. Les Trump lovers, que des fois on aime ça vous agacer, puis vous nous le retournez bien, un petit peu plus d'insultes de votre bord que, d'agaçage. Mais pour de vrai, là, les gens qui sont vraiment pro-Trump, je serais curieux, 25-2-2-6, le discours de Trump cette nuit, les tweets de Trump ce matin, est-ce que ça, vous cautionnez ça? Des fois, Jérôme, je cherche à voir s'il y a une limite dans l'appui à Trump. Tu sais, je donne tout le temps l'exemple des Lemmings, là. La légende qui dit que les Lemmings se pitchent tout en dessous d'un, en bas d'un fossé ensemble. Là. Ouais. Mais pour de vrai, là, si on peut avoir un discours là, rationnel, là, est-ce que ça, vous appuyez ça ou vous convenez comme bien d'autres républicains en passant au cours des dernières heures qui ont dit « Voyons, c'est inacceptable. »
Donc John Kasich, l'ancien gouverneur de l'Ohio qu'on avait à CNN ce matin. Là,
il y avait, ridicule, oui, là, il avait un senior advisor, donc un conseiller senior qui se gouverne anonymat, a dit à quelqu'un que Trump avait fait un... je sais pas c'est quoi le mot français, un tantrum. Tantrum, c'est quand un bébé fait une crise
de bacon.
Une crise de bacon. Ouais. Mais écoute, c'est un conseiller senior du président qui dit « Ouais, il a fait une crise de bacon. »
Même le fameux Ben Shapiro a dit que ça n'avait pas d'allure.
Alors, c'est ce que Trump avait dit. Mais il y a des gens qui le croient. Moi, je sais pas vous autres, mais moi, je l'ai vu sur mes réseaux sociaux. Des gens qui pensent, qui me disaient ce matin, Trump a gagné là, au Québec. Là,
le plus grand moment de clarté politique des 5 dernières années, c'est quand Trump a dit « Je pourrais aller sur la 5e avenue, tirer quelqu'un, puis il voterait pour moi pareil. »
Parce que, oui, parce que... Puis ça, il l'a vraiment dit. Là.
Mais oui, c'était pendant la campagne.
C'était pendant la campagne. Je ne me souviens plus, là, mais c'est ça, il l'a déjà dit. Ça, je l'ai entendu dans un documentaire la semaine passée. Mais c'est que ses fans vont tout lui pardonner. C'est pour ça que le Trumpisme va survivre à Trump à la présidence. Richard Martineau a un bon papier là-dessus ce matin, comme le gaullisme en France a survécu à... au général de Gaulle. Et ça va arriver aussi aux États-Unis.
Et notre collègue Patrick Lagacé aussi dans la Presse Plus a un excellent texte qui est un peu, je sais que les deux n'aimeraient pas ça que je dise ça, mais qui se ressemble un peu. Parce qu'il n'y a pas d'amour perdu entre Pat Lagacé et Jean Martineau. mais Patrick disait, Trump a gagné. Même s'il perd, il a gagné en quelque sorte parce que ça démontre que après 4 ans de ce style-là,
ça marche.
De politique, de présidence, de relations entre un président et les médias, de relations entre un président et ses homologues un peu partout sur la planète, ça fonctionne parce que même s'il perd, ce qui n'est pas confirmé, ça aurait été par la peau des fesses.
Parce qu'il confirme que malgré les médias qui sont constamment sur son dos, c'est une réalité, là, les médias de masse sont constamment sur le dos de Trump. Je pense que ça, c'est pas exagéré de le dire. Malgré ça, il prouve encore qu'il y a une influence majeure. C'est un personnage extrêmement influent, le personnage le plus influent en politique américaine encore. Là.
Ben, cette constante pression médiatique a l'effet inverse chez ben des électeurs. C'est-à-dire qu'il est... Ça le rend sympathique.
Ça
ben
l'intimise,
oui, c'est ça,
exact.
Il y a quand même des gens là, qui écrivent là, qui sont des fans de Trump, mais que ça n'avait pas de bon sens. Là.
Ce qu'il a dit.
Ouais. Ouais. Oh, il y en a qui disent que j'avais prévu une avalanche du vote, mais je n'ai pas. Non, hier même, j'ai dit que je pensais que ça pourrait être plus serré que ce qu'on pensait.
Je me souviens d'avoir prédit ça. Puis avec Raphaël, que la situation qu'on vit aujourd'hui, avec pas de président élu, puis peut-être des contestations, je pense que ça a été pas mal. On n'est pas les seuls, puis ça a été dit beaucoup par tous ceux qui s'intéressent à la politique américaine depuis plusieurs semaines. On s'arrête quelques instants. Il est déjà 11h22. Vous écoutez Trudeau Landry, 25-226 via texto pour nous joindre.